Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de notre chemin de carême avec les Pères du désert. Ce podcast est donc le premier épisode du parcours que j'avais envie de partager avec vous. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter le podcast précédent, celui qui propose quelques mots d'introduction sur le sens et le contenu de ce parcours. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 février, mercredi des cendres, où nous est donné à entendre toujours et à nouveau l'appel incessant à la conversion du cœur que nous adresse le Seigneur. Pour entendre cet appel, nous prions avec le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Amen. Nous entendons la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, du chapitre 5, verset 20, au chapitre 6, verset 2. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant. Le jour du salut. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 1. La vie, la mort et le prochain. Première partie. L'une des choses qui ressort le plus clairement lorsqu'on lit n'importe lequel des grands auteurs monastiques des 4e et 5e siècles, c'est l'impossibilité de penser à la contemplation, à la méditation ou à la vie spirituelle en faisant abstraction du caractère très concret de cette affaire qu'est la vie au sein du corps du Christ, la vie au sein d'une communauté réelle. Vivre une vie d'intimité avec Dieu dans la contemplation, c'est à la fois le fruit et le processus d'une nouvelle manière de vivre une vie commune. Ainsi, dans ses réflexions sur l'héritage que nous ont laissé les moines et les moniales du désert, j'aimerais m'intéresser à la manière dont ils appréhendaient la globalité de leur vie commune et voir d'où ils pensaient que la contemplation venait et vers quoi elle les menait. Je crois que si nous pouvons parvenir à cela, nous apprendrons quelque chose en retour sur les chemins que nous pouvons prendre pour trouver des sources de renouveau dans nos communautés, en tant que chrétiens qui cherchent Dieu dans la prière et dans une vie partagée. Nous n'échappons jamais au danger d'essayer de considérer la vie spirituelle comme si c'était un problème que nous pourrions traiter en soi, séparément. Et c'est souvent très tentant de penser ainsi. Tout simplement parce que quand des humains vivent en communauté, les choses sont généralement très brouillonnes, très peu prometteuses et très peu édifiantes. Les autres, dans leur réalité matérielle et concrète, nous compliquent tellement la vie. Alors que ce que nous croyons vouloir, c'est la spiritualité, c'est-à-dire cultiver une relation sensible et gratifiante avec l'amour et la vérité éternelle. Et c'est précisément là que les pères du désert ont un message sans compromis à nous transmettre. Nous n'aurons aucune relation avec l'amour et la vérité éternelle tant que nous n'aurons pas réparé notre relation avec Pierre, Paul et Jacques. La véritable substance de notre relation avec l'amour et la vérité éternelle dépend de la manière dont nous gérons notre proximité avec nos prochains humains. À première vue, il pourrait sembler que le mouvement monastique avait pour seul but d'éviter les compromis qu'entraîne nécessairement la présence d'autres êtres humains. Nous nous arrêterons plus tard sur l'expression commune que nous rencontrons dans les écrits du désert, celle de la fuite des autres. Et l'impulsion qui a donné naissance au mouvement monastique avait en grande partie à faire avec le souci ressenti par un nombre croissant de chrétiens au sujet de l'Église, dont ils pensaient qu'elle était de plus en plus corrompue et sécularisée. Les premiers moines et moniales sont partis pour fonder les communautés du désert parce qu'ils n'étaient pas convaincus que l'Église, à la manière ordinaire dont elle se manifeste, était capable de montrer clairement ce qui était la raison même de son existence. Et ils voulaient découvrir ce que l'Église était vraiment. Ou, pour le dire avec d'autres mots, parce qu'ils voulaient découvrir ce qu'est réellement l'humanité lorsqu'elle est reliée à Dieu par le Christ. Ce qu'on trouve dans la littérature associée aux premières générations des ascètes du désert, c'est une sorte de rapport écrit depuis le laboratoire de l'Esprit-Saint, non seulement au sujet de l'expérience de la prière, mais aussi au sujet de ce que cela signifie d'être humain, au sujet de la vie, de la mort et de notre prochain. Cette expression est empruntée à Antoine le Grand, le plus ancien et le plus influent des maîtres monastiques chrétiens. Je cite « C'est de notre prochain que dépendent la vie et la mort. En effet, si nous gagnons notre frère, c'est Dieu que nous gagnons. Mais si nous sommes pour notre frère occasion de pécher, c'est contre le Christ que nous péchons. » Fin de citation. Cette sentence est comparable à d'autres qui nous parviendront une génération plus tard, sous le nom de Moïse le Noir, un personnage que nous rencontrerons à nouveau par la suite. C'était l'une des personnalités les plus remarquables du monde monastique, une figure assez hors norme, dont l'enseignement et l'exemple parfois un peu anarchique apparaissent dans de nombreuses histoires. Moïse était un ancien bandit de grand chemin, converti. Un Éthiopien, qui physiquement aussi avait une stature hors norme. Sa tombe est toujours montrée aux visiteurs, près du monastère de Baramous, dans le désert à l'ouest du Caire. Ce qui est un petit signe de l'extraordinaire sentiment de continuité dont on peut faire l'expérience en de tels endroits. On attribue à Moïse toute une série de sentences brèves aux allures de proverbes sur la vie monastique, mis par écrit par un autre grand maître, Abba Poimen. L'une de ces sentences semble reprendre les mots d'Antoine, mais avec une modification qui, à première vue, a de quoi rendre perplexe. « Le moine, dit Moïse, doit mourir à son prochain et ne jamais le juger de quelque manière que ce soit. » Si notre vie et notre mort dépendent de notre prochain, cela nous dit quelque chose de ce que cela pourrait signifier de mourir à son prochain. C'est renoncer au pouvoir de juger quelqu'un d'autre, ce qui est un acte assez difficile pour mériter d'être décrit comme une mort. À l'origine de cela, il y a une idée qui apparaît dans une autre sentence de Moïse. En réponse à un frère qui demande ce que cela signifie, de penser dans son cœur que l'on est un pécheur, ce qui est défini comme une autre caractéristique essentielle de la vie monastique, Moïse dit « Si tu es préoccupé par tes propres fautes, tu n'as pas le temps de voir celles de ton prochain. » Nous commençons alors à percevoir tout un ensemble d'idées engendrées par ces mots apparemment simples d'Antoine. Vivre avec mon prochain d'une manière chrétienne, de telle sorte que le prochain soit gagné, c'est-à-dire converti, entraîné dans une relation de salut avec Jésus-Christ, implique que je meurs. Je dois mourir à moi-même compris comme étant indiscutablement en possession de certaines vertus, de certains charismes, qui me donneraient le droit de juger de la condition spirituelle de mon prochain. Il m'est indispensable d'être conscient de mes propres échecs et de mes propres fragilités pour pouvoir communiquer l'Évangile à mon prochain. C'est en pratiquant cette forme particulière de détachement vis-à-vis de lui ou d'elle que je peux le ou la mettre en contact avec Dieu. Et les pères du désert insistent là-dessus. Cette forme particulière de détachement est absolument nécessaire pour que nous puissions grandir dans la grâce. Nous prions. Trinité bénie, Dieu d'éternité, nous nous tournons vers toi pour que tu nous donnes la vie. Là où tu trouveras un peu de générosité en nous, déploie-la par ta grâce. Là où notre désir de nouveauté s'est asséché, rafraîchis-le de ta vérité. Là où tu sentiras l'imagination du cœur, approfondis-la par ta sagesse. Là où palpite l'espérance de la réconciliation, affermis-la pour que nous soyons un. Mets en nous un esprit d'honnêteté, la passion de la justice, et donne-nous le courage de choisir le chemin prophétique que tu traces devant nous. Tourne vers nous ta face dans ta grâce, ô Dieu, et insufflons-nous la vie de ton esprit. Amen.